Il est vrai, c'est un grand privilège pour moi d'être ici, je dirais doublement. Le mois prochain, ça fera 11 ans que j'habite en France déjà. Et également, ici présent, nous avons des personnes que Dieu a grandement utilisées dans ma vie, justement pour m'appeler en France. Il s'agit de Tim et Elisabeth Knickerbocker. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur, comment il les a utilisées. Justement, Carré a touché quelques mots sur mon appel. Je ne prendrai pas très longtemps pour développer cela, mais ayant grandi dans une famille chrétienne, étant depuis tout petit, enfin depuis tout jeune, parce que je suis encore petit, tout jeune, à l'église, j'écoutais des missionnaires qui passaient avec un grand intérêt. Je voyais les photos qu'ils montraient, tout ce qu'ils disaient concernant les champs missionnaires sur lesquels ils travaillaient. Et toujours fasciné par ces missionnaires qui passaient. Et puis, à un moment donné, ça doit remonter à bien... on doit arriver bientôt sur les 16-17 ans de cela. Tim et Elisabeth sont passés dans l'église où nous étions, aux États-Unis. Et c'est là où Dieu a commencé à travailler dans mon cœur pour la France. Tim m'a fait cette invitation de venir en France pour voir le camp Arc-en-Ciel. Été 2003, c'est là où j'ai pu venir passer à peu près un mois ici en France, à peu près 3 semaines et demie au camp et puis quelques jours à l'institut même. Et c'est là où Dieu a confirmé dans mon cœur qu'il voulait que je travaille en France. Et l'année suivante, en 2004, j'ai déménagé. Je suis venu m'installer en France. J'ai fait mes études pendant 5 ans ici à l'Institut biblique. Et puisque le frère Dodler était alors pasteur à Vernon, j'allais avec lui très très régulièrement. Et petit à petit, je m'impliquais dans l'église de Vernon. Et Dieu commençait à me montrer qu'il voulait que je reste à Vernon. Et je peux vous dire honnêtement, au début, je luttais avec cela. Je me suis dit, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un Américain des États-Unis pour l'installer en tant que pasteur dans une église française. Ça se fait pas. Je voyais pas trop la chose. Et comme j'ai dit, j'ai lutté avec cela. Et jusqu'au moment où Dieu m'a montré, on ne peut pas le limiter. On ne comprend pas toujours pourquoi il fait telle ou telle chose, mais lorsque on est dans sa volonté, il ouvre des portes, il pourvoit, il dirige, et c'était manifestement sa volonté pour moi d'être là à Vernon. Et je luttais avec cela, je n'en avais parlé à personne, et je me souviens très bien un mardi soir, en allant à l'église, le frère Dodler et moi, nous étions dans la voiture, et d'un coup, il me pose la question si je voulais faire un stage pastoral dans l'église de Vernon. J'en avais parlé à personne, et là, tout d'un coup, c'est manifestement Dieu qui a dirigé dans cela. J'ai accepté et par la suite l'église a accepté de me prendre comme pasteur. L'église me soutient à 100% et je vois la main de Dieu à chaque fois qui a ouvert les portes, et je le loue pour cela. Si je suis ici aujourd'hui, bien sûr c'est grâce à l'enseignement chrétien que j'ai eu de la part de mes parents, l'enseignement que j'ai eu ici à l'église, à l'institut plutôt, dans l'église, mais c'est surtout grâce à Dieu. C'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a pourvu et a ouvert les portes. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser par la suite, je pourrai développer. Je ne veux pas prendre plus de temps là-dessus, parce que, comme vous avez vu sur l'invitation, nous allons commencer ce matin en parlant de cette idée « Il faut pour te suivre ». Il faut pour te suivre. Et on se pose cette question, très bien, on veut s'engager pour Dieu, peut-être on ressent l'appel de Dieu, notre frère Boada développera un peu plus qu'est-ce que c'est l'appel et tout, mais peut-être on ressent déjà cet appel et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut? Que faut-il si on va s'engager pour Dieu? Que faut-il? Et j'étais tout de suite attiré par ce passage en Matthieu. Je vous invite à trouver cela avec moi. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Un passage qui vous est certainement pas inconnu. Mais d'une grande importance. Matthieu chapitre 16. Et pour commencer, permettez-moi de lire du verset 24 au verset 28. Merci. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Jésus est en train de parler à ses disciples, et un peu plus tard, je parlerai brièvement du contexte dans lequel nous trouvons ces versets, parce que tout ce qui arrive avant, va avoir une incidence sur ce que Jésus dit dans ces versets. Mais Jésus, ici, résume pour ses disciples, et vous l'avez bien compris, ce qu'il faut pour le suivre. Comme il dit au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, littéralement, si quelqu'un veut venir derrière moi, veut me suivre, voici ce qu'il faut. » Et il va nous montrer, à travers ces versets, quatre éléments indispensables, quatre éléments nécessaires si nous allons suivre Jésus, si nous allons suivre Dieu, et je dirais notamment dans le salut. Pour le salut, il faut ces éléments, mais aussi dans le service chrétien, comme nous l'appelons. Si nous allons nous engager avec le Seigneur, il faut examiner sa vie pour s'assurer que ces quatre éléments sont là. Et le tout premier élément que nous voyons, c'est la préparation. La préparation, nous voyons au verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples. » Ce n'est pas, bien sûr, vous le savez, une erreur ici que Jésus s'adresse à ses disciples et non pas la foule. Jésus avait tendance à parler à la foule. Il leur enseignait, leur disait beaucoup de choses que souvent la foule ne comprenait pas. Mais ici, Jésus est avec ses disciples, les 12, ses apôtres, et c'est à eux que Jésus est en train de parler. Et lorsque nous parlons de suivre Dieu, il faut avoir cette préparation qui, en fait, démarre avec Dieu. Avoir même le désir de suivre le Seigneur, en fait, vient de Dieu. Paul va nous montrer dans l'Épître aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu nous donne la capacité de travailler pour lui, mais Dieu nous donne également le désir. Et sans ce désir qui vient de sa part, nous n'aurions même pas cette envie de le suivre, de faire quoi que ce soit pour lui. Cette préparation, commence avec Dieu. Et Jésus est ici avec ses disciples et il va dire « si quelqu'un ». Alors, qu'est-ce que ce mot, il est formidable. Et Jésus savait très bien ce qu'il disait lorsqu'il dit « si quelqu'un ». Veut venir après moi. Ça veut dire n'importe qui. Parfois, peut-être, nous avons cette idée que le service chrétien est réservé aux élites. Le service chrétien est réservé juste à un petit groupe de quelques personnes que Dieu aurait choisies et qui sont les initiés, qui ont les mis sur une pédestale et on dit, voilà, c'est eux qui travaillent pour le Seigneur. Mais ici, Jésus dit, si quelqu'un. Et c'est très instructif, surtout vu ce qui précède. Alors, nous prendrons pas le temps ce matin de le voir, mais à partir du verset 13 de ce chapitre jusqu'au verset 23, on met l'accent sur Pierre. C'est Pierre qui reconnaît que Jésus-Christ est le Messie et le Fils de Dieu. C'est au verset 17 où Jésus va dire, verset 17 et 18, que Jésus va dire que c'est sur Pierre il est Pierre, et il parle de Pierre dans ce cadre du début de l'Église. Non pas que Pierre est celui sur lequel l'Église serait bâtie, mais il implique Pierre là. Et puis, du verset 21, verset 23, c'est Pierre qui parle. Et il est possible que les disciples auraient pu se dire, ah oui, Jésus met l'accent sur Pierre et il est là et Jésus va faire plein de choses à travers Pierre et nous, alors. Et ici, Jésus dit, si quelqu'un, c'est pas juste Pierre, c'est pas juste Jean, Jacques qui vont participer à la transfiguration par la suite, mais c'est n'importe qui, si quelqu'un, Dieu appelle qui il veut. Et en réalité, Dieu appelle chaque chrétien au service. Un chrétien qui ne travaille pas pour Dieu est une anomalie. Et quelque chose qui ne devrait pas exister. Et bien sûr, nous avons des responsabilités différentes. Nous n'avons pas tous le même rôle. Paul, il va bien reconnaître cela dans l'église de Corinthe. Il dit, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Certains ont certaines capacités, d'autres ont d'autres capacités. Dieu nous a équipés différemment, mais nous avons tous un rôle à accomplir et de reconnaître que oui, ce quelqu'un, ah, cela veut dire moi. Si, là vous pouvez mettre votre nom, si Robert veut venir après moi, si un tel ou tel, n'importe qui, si je suis chrétien, si j'ai accepté Jésus-Christ par la foi, ben, ceci s'applique à moi, si quelqu'un. Et puis, il va un peu plus loin, si quelqu'un veut venir, si quelqu'un veut venir, ceci implique que nous allons quelque part. Nous ne sommes pas statiques, passifs, non, au contraire, nous allons avec le Seigneur, quelque part. Et comme j'ai dit, cette volonté de suivre le Seigneur, ben, vient de Dieu lui-même. Certes, Dieu se sert de nos envies, de nos passions, de ce qui nous intéresse. Mais en réalité, le désir de le suivre vient de sa part. Et si nous avons cette volonté de suivre le Seigneur dans le service, ben, il faut reconnaître que cela vient de lui. Et il termine cette phrase avec ces paroles tellement importantes. Si quelqu'un veut venir, après moi. N'est-il pas tellement dommage et triste que dans le monde chrétien aujourd'hui, nous appelons parfois les gens à suivre tel ou tel prédicateur, tel ou tel groupe, tel ou tel mouvement. On dit, voilà, c'est ça qu'il faut suivre. Là, c'est telle ou telle personne, c'est tel ou tel livre, c'est telle ou telle méthode. Et nous appelons à cela et nous oublions, peut-être consciemment, peut-être même inconsciemment, nous oublions que nous devons appeler les gens à suivre Jésus-Christ.
Amen.
Je dis très souvent aux gens, lorsque je témoigne, bah, je n'annonce pas une religion, je n'annonce pas une église. Vous savez, ici en France, les gens, ils sont soit attachés à l'église catholique ou tel groupe. Non, nous n'annonçons pas une église, nous n'annonçons pas une religion. Pas du tout, nous annonçons Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et Jésus-Christ doit être celui que nous suivons. Et lorsque nous examinons notre engagement pour le Seigneur, si nous avons ce désir de suivre quelqu'un, ben, que ce soit d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, Dieu se sert d'hommes et de femmes dans son service. Et il n'y a rien de mal à apprécier tel ou tel prédicateur, à apprécier telle ou telle méthode, de voir que telle ou telle chose fonctionne bien. Mais que nous ayons toujours devant les yeux cette idée que nous suivons Jésus. Les premiers chrétiens, ben, ils étaient appelés chrétiens, petits Christ. Ils étaient appelés les gens qui suivaient Jésus-Christ. Pierre, Jean, bien qu'ils n'étaient pas bien instruits, étaient reconnus pour les gens qui avaient passé du temps avec Jésus. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, nous n'appelons pas les gens à nous suivre. Jésus pouvait le faire. Il est Dieu. Mais nous appelons les gens à suivre Jésus. Bien sûr, dans le salut, nous le savons. Mais aussi dans le service pour Dieu. Donc tout d'abord, il faut cette préparation. Il faut s'assurer que ce désir que nous avons vient de Dieu. Il faut reconnaître que ben, cela m'implique moi. Et je dois m'assurer que c'est le Seigneur Jésus que je suis. Mais deuxième élément, après la préparation, ce que nous voyons dans ce verset 24, c'est nous avons besoin de l'action. La préparation est importante et on reviendra un peu sur cette idée lorsque nous arrivons au verset 25 et 26. Mais la fin de verset 24 nous montre qu'il est obligatoire d'avoir cette action. Et si nous nous préparons, c'est parce que, à un moment donné, nous allons passer à l'action. Nous ne nous préparons pas à rien faire. En fait, ça se passe tout seul. Pas besoin de se préparer pour ne rien faire. Non, on se prépare parce que on va passer à l'action. Et ce que Jésus dit à la fin de verset 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On se dit, oula, pas tout à fait ce que nous voudrions entendre. Essayez de vous mettre à la place des disciples. Jésus commence, si quelqu'un veut venir après moi, les disciples sont là et ils attendent, qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Et ils entendent cela. Oula! S'il avait dit, qu'il se prépare dans la prière, qu'il fasse toutes ces choses. Mais là, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors déjà qu'il renonce à lui-même. Je regardais dans le grec et en lisant ce verset, je me suis dit, c'est probablement une action continue là. Je me suis dit qu'il renonce à lui-même, qu'il continue à le faire, que ce soit une action continuelle. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas le cas. Littéralement, ce que Jésus dit ici, c'est qu'il commence. Pour ceux qui connaissent le grec, c'est un aoriste impératif. Donc il y a impératif, mais aoriste. Moi, je m'attendais à avoir un présent. Mais non, c'est qu'il commence. Cela veut dire que, en fait, c'est quelque chose que la personne dont Jésus parle ici, il n'est pas en train de le faire pour le moment. Qu'il renonce à lui-même. Et on regarde cela et on se dit, mais dans notre société, ceci va à l'encontre de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous voyons autour de nous. Tout ce que nous voyons dans les publicités, c'est de se mettre en avant. Vous le valez bien, n'est-ce pas? Combien de fois l'avons-nous entendu? C'est pour vous, vous le méritez bien. De toutes les façons, on vous a privé de telle ou telle chose, et là, réclamez vos droits, exigez ce que vous méritez. Et notre société aujourd'hui, on peut dire, est obsédée par cette idée de réclamer ce qu'il croit mériter. Et Jésus dit ici qu'il renonce à lui-même, ou littéralement, comme j'ai dit, qu'il commence à le faire. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que notre nature humaine va dire, mais bien sûr, je mérite telle ou telle chose, et là vous mettez ce que vous voulez. Je mérite d'être bien, je mérite d'être confortable, je mérite que les autres face. Et notre nature pécheresse nourrit cette pensée. Et Jésus dit, non, il faut changer. Si nous passons à l'action, cela commence en renonçant à lui-même. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Renoncer à lui-même. On peut dire, renoncer à lui-même, mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que je ne compte plus, que je m'efface totalement? Non, je suis convaincu que non. Parce que Dieu doit quand même se servir de nous. Quelqu'un avait dit une fois, Dieu n'a d'autres mains que les nôtres. Et Dieu travaille à travers nous. Il nous donne ce privilège extraordinaire de travailler pour lui. Donc, il a besoin de nous. Donc, renoncer à soi-même ne veut pas dire que je m'efface totalement. Par contre, ce que cela veut dire, c'est que je renonce à ma propre volonté. Que si moi, je le désire d'aller dans telle ou telle direction et que Dieu me dirige ailleurs, je suis la voix de Dieu.
Amen.
Aussi forte que peut-être ma conviction et ma volonté d'aller dans telle ou telle direction. Si le Seigneur me dirige ailleurs, à ce moment-là, je lui obéis. Je lui suis soumis. Et dans un sens, il est facile de dire cela. De dire, oui, Seigneur, je te suivrai. Mais le moment venu, lorsque nous avons le choix à faire, qu'est-ce que nous allons dire? Trop souvent, malheureusement, pour l'avoir constaté dans ma propre vie, nous choisissons ce qui nous plaît. Nous suivons notre propre voie et nous voulons avoir l'accord de Dieu en disant, je suis cette voie, Seigneur, bénis-moi dans cette voie. Alors que on n'est pas vraiment dans sa volonté. Et au lieu de venir à Dieu avec toutes nos demandes et toute notre vie planifiée pour que Dieu mette son sceau d'approbation, non, comme c'est le frère Dodler qui avait donné cette illustration formidable, on vient avec la page vierge. Et là, on laisse Dieu remplir. Et on renonce à soi-même, c'est-à-dire sa propre volonté, ses attentes, même ses aspirations. Et on peut se dire, mais c'est dur, cela. Ça demande de l'effort. Oui, c'est vrai. Parce que d'un côté, nous sommes tirés vers ce qui nous plaît. Nous sommes portés vers ce que nous voulons. Mais lorsque nous nous rendons compte de ce que Dieu a préparé pour nous, ce que nous verrons vers la fin de ce message, ce choix devient de plus en plus facile. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qui doit commencer. Et si nous devions examiner notre vie, avons-nous commencé à renoncer à nous-mêmes. Non pas que nous n'avons plus aucun désir pour nous-mêmes, mais que nous soumettons chaque désir, chaque attente, chaque aspiration à Dieu pour s'assurer que cela vient vraiment de lui. Et ici, à travers ces phrases, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, si cela commence, nous savons que dans cette vie, cela ne se terminera pas. Ce sera quelque chose qui devra être renouvelé. Et nous ne pouvons jamais dire, oui, je suis arrivé, j'ai renoncé une fois pour tout. Non, si cela commence, effectivement, cela va continuer. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas tout ce que Jésus dit ici. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, bien sûr, mais qu'il se charge de sa croix. Voilà. Encore une fois, renoncer à soi-même, ok, d'accord, je passe à l'action là, mais qu'il se charge de sa croix. Mais ça fait mal, ça. Une croix. Peut-être nous avons un peu perdu cette image, mais une croix, c'est quelque chose de terrible. Et qui portait leur croix? C'était les condamnés. C'était les criminels qu'on forçait pour mettre le comble à leur punition, à porter leur propre croix sur laquelle ils allaient être cloués. Et Jésus dit ici qu'il commence à se charger de sa croix. Et de penser à cela et se dire, mais de quoi est-ce que Jésus parle ici? De se charger de sa croix. Et je suis convaincu que dans ce contexte, ce que Jésus veut enseigner à ses disciples, c'est d'accepter les difficultés qui nous viennent dans la vie. Nous n'avons pas le temps ce matin, mais vous prenez Jean chapitre 14, 15 et 16. Et vous comprendrez que Jésus explique à ses disciples, cette vie sur terre n'est pas facile. Ceux qui enseignent qu'il faut venir à Jésus et après tout ira bien, c'est faux. C'est beau d'annoncer cela. Les gens, ils veulent entendre cela, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Non. Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Et cela veut dire qu'en tant que chrétien, lorsque nous nous engageons pour le Seigneur, nous ne devrions pas être étonnés par l'opposition, par des difficultés, par des luttes, par des combats. Ce n'est pas parce que nous faisons face à l'opposition et aux épreuves que nous sommes sur la mauvaise voie. Parfois, peut-être vous l'avez entendu, s'il y a de l'opposition, il faut changer. Il faut aller là où il n'y a pas d'opposition. C'est totalement faux. Et combien de témoignages nous avons d'hommes et de femmes qui ont travaillé pour Dieu malgré l'opposition, la persécution, ces épreuves tellement dures. Et Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Et si nous avons cette conception qu'en tant que chrétien, il faut se débarrasser de toute difficulté, il faut s'éloigner de tout obstacle, toute opposition, nous passerons certainement à côté de ce que Dieu a pour nous. Dieu n'a jamais promis que cette vie avec lui serait facile. Ce qu'il a promis, c'est d'être avec nous. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cet âge. Jusqu'à la fin. Nous avons cette promesse, mais nous n'avons pas la promesse que tout sera facile, que tout sera rose. Et Jésus voulait prévenir ses disciples en disant, c'est très bien, vous avez le désir, vous commencez à me suivre, mais attention, ne vous donnez pas cette image du service pour Christ, qu'il n'y aura pas de difficultés. Non, il y en aura. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et comme j'ai dit, qu'il commence. Avons-nous commencé à faire cela ou est-ce que nous essayons de fuir à chaque fois les difficultés, l'opposition, ces épreuves? Non pas qu'il faut les chercher, bien sûr, inutilement. Non, il ne s'agit pas de se charger des choses dont nous ne devrions pas nous charger. Mais il ne s'agit pas de les éviter à tout prix non plus. Qu'il renonce à lui-même, à ses attentes, à ses aspirations, à sa propre volonté pour les remplacer par la volonté de Dieu, qu'il se charge de sa croix et à la fin de ce verset, qu'il me suive. Il est étonnant le nombre de chrétiens qui disent « Je veux m'engager pour Dieu, j'ai ce désir, oui, je vais faire telle ou telle chose. » Et après, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne commencent même pas à suivre. Ils se sont bien préparés, gloire à Dieu. Ils savent qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes. Ils savent qu'ils doivent se charger de leur croix, mais ils ne prennent jamais ce premier pas, pour suivre le Seigneur. Et Jésus dit, oui, il faut renoncer, il faut se charger, mais il faut que l'on suive. Et Dieu peut nous montrer le plus clairement possible sa volonté et son appel pour nous. Si nous ne le suivons pas, cela n'aboutit à rien. Et quelle tristesse, déjà pour Dieu, mais aussi pour la personne. Quand Dieu fait tout pour révéler ce qu'il veut, et nous passons à côté. Nous nous obstinons à rester là où nous sommes et ne suivons pas ce que Dieu veut. Nous ne suivons pas le Seigneur alors qu'il a tout préparé et il veut que nous passions à l'action. Et Jésus dit, oui, cette préparation est essentielle, passer à l'action dans ces deux premiers domaines, de se renoncer à soi-même et de se charger de sa croix, mais ce n'est pas assez. Après, il faut le suivre concrètement. Et peut-être cela implique aller sur le champ missionnaire. Mais vous savez, aller sur le champ missionnaire ne veut pas forcément dire aller dans un pays étranger. Je l'ai fait et je loue le Seigneur de m'avoir conduit dans cette direction. Mais le champ missionnaire existe tout autour de nous. Et de suivre le Seigneur, déjà dans le témoignage, là où nous sommes. Comme Jésus va dire dans cette parabole, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai encore de plus grandes. Et de reconnaître que lorsque Dieu dirige, à ce moment-là, il faut suivre. L'hésitation, la peur, l'incertitude vont vouloir nous arrêter, nous faire attendre, mais Jésus dit non. Qu'ils me suivent. Donc, il faut passer à l'action. Alors, nous avons la préparation, nous avons l'action, mais ce n'est pas tout. Dans les versets 25 et 26, regardez avec moi, Jésus appelle aussi à la réflexion. la réflexion. Ces versets 25 et 26, nous les connaissons assez bien. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quoi? Non, mais ça se fait pas, ça. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est un peu comme les banques aujourd'hui. On y met de l'argent, on espère la garder, mais non, elle part. Mais ici, bon, on parle de choses bien plus importantes que l'argent. Sa vie, son âme. Et Jésus dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais, attention, celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus appelle à la réflexion. Tout comme il va faire dans Luc chapitre 14, vous pouvez noter ce passage, Luc chapitre 14, où Jésus reprend les mêmes thèmes qu'ici. Il parle de cet homme qui allait construire une tour, mais qui n'a pas bien réfléchi s'il avait assez de moyens pour terminer la tour. Et puis, il arrive à ne pas terminer, et tout le monde va se moquer de lui en disant « Ah, mais celui-là, il n'avait pas assez d'argent pour terminer. » Ou le roi qui va faire la guerre et ne se renseigne pas avant s'il a assez de soldats pour avoir la victoire. Et ici, Jésus appelle à la réflexion. Oui, il faut s'engager pour Dieu, mais pas à l'improviste. Sans préparation, sans réflexion. Et même une fois que nous nous sommes engagés pour Dieu, cette réflexion doit continuer. Parce que dans notre vie, notre service pour le Seigneur, il y aura des choses qui viendront, qui vont nous faire douter, qui vont essayer de nous déstabiliser. Et Jésus dit, non, il faut bien réfléchir. Et lorsque nous revenons au début du verset 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Imaginez-vous les disciples qui ont entendu cela. Et lorsqu'ils ont essayé de propager cela autour d'eux, lorsqu'ils ont raconté ce que Jésus a dit, les autres personnes auraient dû dire, les disciples, ils ne sont pas bien ceux-là. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Non, mais comment ça? Et Jésus est dans une perspective à la fois spirituelle et éternelle. Aujourd'hui, les hommes essaient de tout faire, à la fois pour rester en vie, améliorer leur santé, et même après la mort, il y a certains, parce qu'ils ont assez d'argent et ne savent plus quoi faire, ils se font congeler, si je peux employer ce terme, dans l'espérance qu'un jour, lorsque la médecine aura avancé à un tel point qu'on puisse les ranimer et les faire revenir à la vie. Non, mais c'est une folie complète, ça. Et pourtant, il y a des gens qui le font et qui y croient dur comme fer. Et Jésus dit ici, celui qui voudra sauver sa vie pour cette vie terrestre, il est passé à côté. Il a perdu pour l'éternité. Et ici, il est question du salut. Si celui qui se tient absolument à sa vie terrestre, sans intégrer Dieu, sans penser à Dieu, passe à côté de ce qui est essentiel. J'ai entendu la question tout récemment, quelqu'un qui ignore Dieu pendant toute sa vie sur terre, peut-il être sauvé? J'ai dit non, pas possible. Il y a un chemin, Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus dit, oui, il faut réfléchir, qu'est-ce qui compte dans cette vie? Est-ce que ce sont les choses matérielles? Est-ce que nous nous attachons tellement aux choses matérielles et à notre situation dans ce monde que nous ignorons le côté spirituel? Parce que Jésus va continuer en disant, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous savez, les gens du monde pensent des chrétiens qu'ils sont assez fous, assez insensés. Ils dépensent leur argent pour l'église. Ils dépensent leur temps pour l'église, pour eux, que nous nous réunissions aujourd'hui surtout une genre de fête, un jour férié, on pourrait être, bon, pas dehors parce qu'il ne fait pas très beau, mais on pourrait s'occuper et s'amuser à mille et une autre chose. Allez, détendez-vous, prenez du temps pour vous, quand même, ne soyez pas fanatique. Ce sont les réflexions du monde. Et le fait que on se donne pour Dieu, le monde ne comprend pas. Et ils disent, mais il perd sa vie. Il ne fait rien avec sa vie. Il est toujours en train de parler de l'Église, de Dieu, de ce qu'il fait pour Dieu, de son engagement. Et Jésus dit, celui qui la perdra à cause de moi. Voilà la clé. On le fait pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Celui qui la perdra pour moi, la trouvera. Et la certitude de Jésus dans ce passage m'encourage. C'est pas peut-être. On s'engage pour Dieu et si Dieu veut bien, il nous récompensera. Si Dieu veut bien, ben quelque chose de bien en sortira. Non, non. Celui qui perdra sa vie pour moi, la trouvera. Vous voyez la certitude. C'est pas comme nos chers amis normands. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, 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 non. La certitude. Et en tant que chrétien, c'est comme cela que nous devons réfléchir. Il y a cette réflexion qui doit intégrer notre service pour le Seigneur. Que ce que nous faisons a du prix aux yeux de Dieu. Et que c'est Dieu qui s'occupera des récompenses, comme nous verrons par la suite. Et verset 26, Jésus pose cette question. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Parfois, on pose cette question, on y réfléchit un peu, mais avez-vous jamais pris le temps de vous arrêter et de bien méditer cette question? Quel avantage d'avoir tous les biens de ce monde et de l'autre côté perdre son âme? Parfois, on dirait, ben, si j'avais un peu plus, ben, ce serait pas mal. Si j'avais des milliers, voire des millions, voire des milliards, là, qu'est-ce que je pourrais faire avec cela? Comment je pourrais m'engager? Mais Jésus dit, si on met l'accent là-dessus, il n'y a aucun avantage pour quelqu'un qui souhaite avoir tous les biens du monde, mais qui ne s'occupe pas de l'état spirituel de son cœur, s'il perdait son âme. Et bien sûr, un chrétien ne perd pas son salut, mais un chrétien peut être attiré par les choses du monde, les biens de ce monde, ses propres envies, ses propres désirs, et laisser de côté son service pour Dieu et s'occuper des choses matérielles aux dépens de son engagement envers Dieu. Et il termine en disant que donnerait un homme en échange de son âme. Vous savez, quelqu'un sera prêt à pratiquement tout échanger pour sa vie. Vous savez, quelqu'un est sous la menace de la mort. Et là, on va dire, bah, je te donne. Et là, même si on n'a pas l'argent, on dit, bah, je trouverai un moyen, je te donne ce que j'ai. Je trouverai un moyen d'en avoir plus. Tenez, prenez telle ou telle chose. Lorsqu'on est sous la menace de la mort, on est prêt à tout échanger. Et ça, c'est pour la vie physique et pour notre âme. Que sommes-nous prêts à donner pour Dieu? Lorsque nous réfléchissons sur notre propre vie, que sommes-nous prêts à perdre pour Dieu? Dans notre service pour Dieu, y a-t-il des choses, des domaines où nous nous disons, ben, j'ai assez donné. Ou là, je ne peux pas, c'est pas possible. Ça c'est pour moi. Dieu, ben, il peut avoir toute cette part, mais là, cette partie, ben, c'est pour moi. Est-ce que nous réfléchissons peut-être parfois comme cela? Jésus dit, on donnerait tout en échange de son âme. Et en tant que chrétiens, nous devrions être prêts à donner tout pour le Seigneur. D'avoir cette réflexion dans notre service pour lui. Alors, je vois l'heure avancer. Alors, nous arrivons au verset 27 où nous découvrons le quatrième élément. Nous avons vu la préparation. l'action, la réflexion, et maintenant nous arrivons à l'anticipation. Vous savez, quand vous attendez quelque chose, bah, c'est formidable. Surtout pour les enfants, ils attendent leur anniversaire. Ils pensent plein de cadeaux. Et ils attendent Noël, encore plein de cadeaux. Ils attendent l'été, sortie, vacances, toutes ces choses. Et lorsque nous attendons des choses, c'est formidable. On anticipe. On est dans l'anticipation, dans l'attente. Et au verset 27, regardez. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. » J'espère que cette vérité vous réconforte et vous encourage. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Amen.
Amen.
Et quand il reviendra, comme il dit dans ce verset, à la fin de verset 27, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, nous pouvons avoir deux réactions face à cela. Il rendra à chacun selon ses œuvres et on va dire, « Ouais, j'ai travaillé pour le Seigneur et je sais, par la grâce de Dieu, c'est pas de l'orgueil, mais je sais, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé pour lui et Dieu va me récompenser. » Nous pouvons avoir cette réaction, « Gloire à Dieu !» Dieu est fidèle et juste, il n'oublie pas notre travail pour lui. Notre travail n'est pas en vain, il récompensera. Mais il y a aussi l'autre réaction qu'on pourrait avoir, réaction de honte. Je n'ai pas autant travaillé que j'aurais pu. Je n'ai pas fait tout ce que Dieu a voulu. J'ai négligé. J'ai choisi de faire autre chose au lieu de m'engager pour Dieu. Et à ce moment-là, ben, on va avoir honte. Je suis convaincu que chacun d'entre nous aura honte. Au tribunal du Christ, lorsque nos œuvres sont examinées, 1er épître aux Corinthiens, où nos œuvres vont passer par le feu. Et là, ce qui sera de l'or, des pierres précieuses, ben, va rester. Le reste partira en fumée. Et nous avons cette anticipation que Jésus-Christ, nous attendons avec espérance le retour de Jésus-Christ. Il vient. Verset 27, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Et jusqu'à présent, dans ces versets, on peut dire, bah, c'est assez triste. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, perdre sa vie, suivre Jésus, tout semble assez triste et on se dit, mais à quoi bon? Je pourrais m'amuser aujourd'hui, je pourrais faire toutes sortes de choses qui me plaisent, qui me font du bien. Et là, c'est quand même assez triste, verset 24 jusqu'au verset 26. Et là, le verset 26 nous aide à relativiser tout, à changer notre perspective et de voir que un jour, notre travail sera récompensé. Nous ne travaillons pas en vain. Et il y a cet élément de foi qui est là. Et lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lorsque nous nous engageons, ben, il faut avoir cette anticipation, cette attente que Jésus-Christ revient. Parce que sinon, on finira par croire que ce que nous faisons ne vaut pas la peine. On va se décourager. On va dire, ben, à quoi bon? Je vois pas le fruit. Lors de nos bien-aimés sur Amiens, cela fait des années qu'ils travaillent là-bas. Et humainement parlant, ils voient peu de fruits. Et des cas comme cela, nous pourrions les multiplier. Des frères et sœurs qui fidèlement, à travers des années, qui ont travaillé. Et sur le plan humain, soit rien ou presque rien. Et si nous n'avons pas cette attente devant nos yeux, à un moment donné, nous allons dire, ah ben, c'est trop dur. C'est pas la peine. Je vais passer à autre chose parce que manifestement, ben, Dieu n'est pas en train de travailler. Mais comment le saurons-nous? Nos bien-aimés là sur Amiens et nos bien-aimés dans d'autres endroits continuent d'être fidèles parce qu'ils savent, ils le font pour le Seigneur et qu'un jour, ils vont rendre des comptes devant Dieu et que Dieu va les récompenser pour leur travail, pour lui. Mais sans cette attente, nous nous laisserions séduire par les choses matérielles autour de nous. Nous nous laisserions séduire par la facilité. Et nous pourrions commencer à croire aux mensonges de notre propre cœur et de Satan qui nous disent, bah, cherchez autre chose. Manifestement, là, Dieu n'est pas en train de travailler. Faites autre chose. Et Jésus dit, je reviens. Et avec Jean, nous pouvons dire, oui, viens Seigneur Jésus. Ça devrait être notre prière. Et de savoir qu'il revient, et qu'il revient avec ses récompenses pour nous récompenser, cela doit nous stimuler à continuer de travailler pour lui. Comme il dit, il doit venir dans la gloire de son Père. Jésus-Christ, Dieu le Père, qui travaille dans une parfaite harmonie, qui sont là ensemble, le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous encourage, qui nous rappelle ces vérités. De nouveau, prenez ces versets dans Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Le travail du Saint-Esprit, tout ce qu'il fait pour nous, c'est formidable. Et c'est lui qui nous aidera à avoir cette anticipation, d'avoir cette attente du retour de Jésus-Christ. Et c'est ce verset 27 qui change le tout. Sans ce verset 17, on pourrait dire, oui, c'est quand même assez triste, assez sombre. Mais avec ce dernier élément, cette attente, cette anticipation, nous anticipons, il y a cette attente avec joie, avec espérance. Et nous savons que cela va arriver. C'est pas un espoir, peut-être un jour, mais on n'est pas très certain, non. L'espérance, cette certitude, il le fera, il viendra. Et à la fin du verset 20, le verset 28, vous avez remarqué, j'ai lu ce verset, et puisque la Bible est inspirée, Dieu a inspiré Matthieu à lier ce verset au verset qui précède. Parce que Jésus, dans la foulée, dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, Jésus-Christ est-il revenu? Non, nous sommes encore là, donc si on comprend bien les Écritures, Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Alors, est-ce que les apôtres de l'époque sont encore en vie? Non, non plus. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Et lorsque nous savons que dans le chapitre 17, ben, là, on parle de la transfiguration, Pierre, Jean, Jacques sont là. Alors, l'explication la plus probable, et nous n'avons pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais ce que Jésus est en train d'expliquer ici, c'est qu'il allait se révéler dans sa gloire à certains de ses disciples, notamment Pierre, Jean et Jacques. Et en réfléchissant là-dessus, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu pousserait Matthieu à inclure cela, et pourquoi est-ce que Jésus dirait cela à ce moment-là? Et je suis convaincu que Jésus voulait encourager ses disciples en disant, oui, il y a une attente. Nous regardons vers l'avenir, c'est notre bienheureuse espérance qu'un jour Jésus revient. Mais en même temps, Dieu nous donne, à travers notre vie, des preuves de sa bonté, des preuves de sa grâce. Jésus se révèle à nous, bien sûr, à travers sa parole, et nous voyons sa main. Et notre attente, n'est pas simplement future, mais elle est confirmée par ce que nous voyons au jour le jour. Et nos expériences ne seront pas les mêmes. La transfiguration était réservée à juste quelques-uns. Mais Jésus a confirmé à ses disciples par d'autres méthodes aussi, et d'autres expériences, que ce qu'il disait était vrai, et qu'il devait persévérer dans cette attente à cause de ce qu'il voyait autour d'eux. Et la même chose est vraie pour nous aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes dans l'attente. Et parfois, lorsque cela devient dur, lorsque dans notre service pour Dieu, quel qu'il soit, nous nous décourageons, nous commençons à regarder un peu autour de nous, et aux difficultés, aux épreuves, à ce moment-là, Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, peut faire intervenir dans notre vie un événement, un frère ou une sœur qui nous encourage pour nous confirmer, tiens bon, va jusqu'au bout. Parce que il y a cette attente, un jour, Jésus récompensera. Et dans notre vie d'examiner si ces éléments sont présents, Déjà, est-ce que je suis sauvé? C'est là la base. Nous n'en avons pas trop parlé, mais c'est la base. Ceci part de la supposition que on est sauvé. Et si on est sauvé, est-ce qu'il y a la préparation? Est-ce que nous nous laissons Dieu nous préparer, nous donner le désir de travailler pour lui? Et puis, est-ce que nous passons à l'action? Et puis, par la suite, est-ce que nous réfléchissons? Est-ce qu'il y a cette réflexion sur les choses spirituelles? Et puis, est-ce que nous vivons dans cette attente, cette anticipation, comme dit la parole de Dieu, de hâter le retour du Seigneur Jésus? Est-ce que ces éléments sont dans notre vie? C'est la base. Jésus explique à ses disciples, vous voulez me suivre? Voici comment. Et aujourd'hui, 21e siècle, chrétiens qui viennent d'un peu partout, voulez-vous suivre le Seigneur? Ben, voici ce qu'il faut. Voici les éléments nécessaires qui doivent être présents dans notre vie. Maintenant, à chacun de s'examiner. Peut-être aucun de ces éléments n'est présent dans votre vie pour le moment. Ben, vous pouvez commencer aujourd'hui. Peut-être un ou deux sont présents, mais vous devez ajouter les autres. Et peut-être par la grâce de Dieu, les quatre sont déjà là. Gloire à Dieu. Continuez. Mais ceci est pour chacun d'entre nous. C'est chacun qui doit se remettre en question et examiner. Et puis, comme nous avons vu, ben, passer à l'action. Mettre ces éléments dans sa vie, laisser Dieu agir. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour ta parole qui ne nous laisse pas dans le doute, mais qui nous montre clairement ce que tu attends de nous. Et Seigneur, nous sommes insuffisants par nous-mêmes, nous avons besoin de ta grâce, de ton aide pour ces choses, que tu puisses travailler le cœur de chacun, que nous puissions nous remettre en question devant toi et que nous laissions ton Saint-Esprit nous transformer par cette parole puissante et que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Amen.
Merci, pasteur de Sète.